France Culture.
France Culture, la fabrique de l'information, François Seltiel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons d'explorer une zone où règne encore une certaine forme d'impunité médiatique concernant la visibilité des affaires de violences sexistes et sexuelles. Ce terrain, c'est celui du monde sportif, un spectacle omniprésent dans notre paysage où les athlètes mis à l'honneur sont bien souvent des hommes dont on loue davantage les performances que les dérives. Alors évidemment, depuis la vague MeToo de 2017, la prise de conscience avance, notamment dans les rédactions, comme à L'Équipe, le quotidien sportif de référence où des journalistes travaillent pour mener leurs enquêtes dans un secteur particulièrement fermé, des fédérations aux clubs, en passant par les agents qui protègent. Comment ce journalisme d'investigation nécessaire se confronte-t-il au journalisme sportif fait de records et d'exploits? Comment recueillir la parole des victimes face à la puissance de communication des potentiels coupables? Ces violences de genre se manifeste aussi dans les rédactions où les femmes journalistes subissent défiance et sexisme dans ce monde principalement pensé par et pour les hommes. Quelles sont enfin les pistes et leviers pour mieux mettre en lumière la réalité de violences qui font système? Des grandes questions et trois invités pour y répondre. Mejdali Miri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste sportive indépendante. Vous avez notamment travaillé pour le journal L'Humanité. Vous êtes coprésidente de l'association Femmes Journalistes de Sport et co-autrice avec Clotilde Lecoz du livre qui a inspiré notre émission du jour, La Zone d'Impunité, critique du traitement médiatique des violences sexuelles et sexistes dans le sport. Elle vient de paraître aux éditions Hugo Doc. À distance, Marc Le Plongeon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et chef du service enquête du journal L'Équipe, quotidien incontournable bien sûr pour les passionnés de sport. Vous pourrez revenir sur la création de ce service et votre travail au quotidien pour tenter de rendre visibles vos investigations. Sandy Montagnola complète la composition de ce plateau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Rennes et une spécialiste de la médiatisation du genre dans le sport. Merci d'être avec nous. Cette semaine, pas de chronique de nos amis de Courrier International, mais nous les retrouverons la semaine prochaine. Et en parlant de courrier, j'en profite pour vous remercier pour vos nombreux messages. N'hésitez pas à nous écrire, adresse à retrouver sur la page de l'émission et sur le site de l'application Radio France. Nous sommes toujours heureux de lire vos retours et n'hésitez pas à nous faire part de ce qui vous interroge et intéresse dans l'actualité médiatique. Vous avez maintenant le programme complet de l'épisode 27 de La Fabrique de l'Information. C'est parti pour le coup d'envoi.
Achraf Hakimi sait qu'il va être scruté par les caméras, car le latéral droit du Paris Saint-Germain vient d'être renvoyé en procès pour viol.
Kylian Mbappé a décidé de partir faire la fête en Suède. Et selon les informations du journal suédois Expressen, le capitaine des Bleus serait visé par une plainte pour viol et agression sexuelle.
Je m'appelle Emma Oudiou, je suis une ancienne sportive de haut niveau et aujourd'hui je suis conférencière dans la lutte contre les violences dans le sport.
2014, donc c'est la compétition pendant laquelle malheureusement j'ai vécu des agressions sexuelles de la part de l'entraîneur national.
Deux ans plus tard, elle porte plainte. D'autres athlètes témoignent en dénonçant des gestes déplacés de ce même entraîneur. Mais l'enquête sera classée sans suite.
Habitué à jouer sous les regards des spectateurs du monde entier, Neymar est maintenant sous ceux de la justice. Suite à une plainte déposée pour viol contre lui.
On veut que ce soit moyen, ouais. Avion de chasse intersidéral. C'est vachement déçu.
C'est de la deuxième division, ça.
Non, mais vous êtes tarés, les mecs. C'est une rien à voir dans le débat.
Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle?
Mais c'est pas un débat parallèle, ça. C'est une histoire. C'est... Non, ça n'a rien à voir.
Bah, ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Soulever la jupe de quelqu'un comme ça?
Oh oui.
Même en sachant que ça peut être humiliant.
Ça peut humilier?
Oui.
Ah bon? Ah, j'en suis désolé, mais. Mais il faut aussi prendre les gens comme ils sont, quoi, tu vois.
Je cible aucun individu. Ce que j'ai envie de dénoncer, c'est le système dans son entièreté. Ce sont quand même des anecdotes qui relèvent de la misogynie. C'est pas vraiment des agressions, c'est pas du harcèlement. C'est la misogynie systémique qui existait au sein des rédactions.
Voilà, un dernier extrait du documentaire de Marie Portolano qui a été diffusé sur Canal+, en 2024 et puis qui a été assez marquant par rapport au sujet qui nous intéresse. Alors si on prend un peu de recul, depuis 20 ans, au moins 110 athlètes de haut niveau ont été visés par des accusations de violences sexistes ou sexuelles en France. Mais Jdaline Miri, est-ce qu'il y a une spécificité du milieu sportif concernant l'existence de ces violences que l'on peut évidemment voir et observer dans bien d'autres domaines?
Alors je précise que nous, on a particulièrement
vraiment recherché ce qui était relatif aux athlètes de haut niveau. Mmh. Mais de manière générale, oui, avec la prise de parole de Sarah Abitbol en janvier 2020, en fait, on s'est rendu compte que le milieu du sport, au lieu d'être un milieu lié aux valeurs de dépassement de soi, de solidarité, de respect de l'adversaire, etc., il y avait aussi beaucoup de violence qui s'y exerçait. Quand on regarde l'histoire du sport, c'est un milieu qui a vraiment été créé par les hommes, pour les hommes, pour célébrer la virilité. En fait, c'est même très étonnant qu'on ait mis autant de temps à s'en rendre compte. Il y a des femmes qui ont pris la parole il y a déjà quelques années de ça. Je pense à Isabelle de Mongeau, à Catherine Moyon-Debecq, qui n'ont pas été écoutées il y a 25 ans, il y a 30 ans. Et maintenant, heureusement, on écoute un petit peu plus les femmes quand elles parlent des violences qu'elles ont subies dans le milieu sportif ou des enfants de manière générale. Pour autant, quand c'est un athlète reconnu, la tâche se complique.
On va justement avoir l'occasion d'en parler. Marc Le Plongeon, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la culture viriliste, finalement, qui prédomine dans le monde du sport et qui est peut-être une spécificité par rapport à d'autres domaines? On peut passer par exemple au domaine artistique, comme dans le cas de la culture ou du cinéma.
Alors bien sûr, c'est absolument, cette culture est absolument indéniable dans le milieu du sport. Cela dit, il y a d'autres problèmes qui se posent avec des répercussions qui sont identiques dans les milieux du cinéma ou de l'art. Cela dit, quand on lit le livre de ma consoeur, c'est un livre qui fait mal. C'est un mal que je jugerais nécessaire, car il invite à non seulement nous interroger sur notre propre pratique journalistique, mais aussi sur les mots, les expressions qu'on utilise et qui parfois véhiculent, malgré nous, un certain nombre de clichés sexistes. Ça, on en a évidemment conscience. J'en parle parce que le bouquin de ma consoeur, justement, s'attelle à ausculter le traitement médiatique des VSS dans le sport.
Violence sexiste et sexuelle. VSS, je vulgarise pour les auditeurs et auditrices.
Excusez-moi, mais cela dit, il faut aussi ne pas tirer des conclusions de tout ça. C'est-à-dire que la conclusion pour moi qui s'impose ces dernières années, c'est que les médias s'emparent très largement de cette question, à l'équipe également, et on multiplie les enquêtes depuis un certain nombre d'années sur les violences sexistes et sexuelles. On leur donne de la visibilité, c'est-à-dire non seulement sur le site internet de l'équipe, mais aussi dans nos pages. Et ça, c'est une tendance très général, je pense, de la presse en général.
Alors, on aura l'occasion, effectivement, Marc Le Plongeon, de revenir sur le service enquête auquel vous appartenez. Mais toujours pour essayer de comprendre les spécificités du monde du sport, Sandy Montagnola, on voit que c'est aussi un monde qui est beaucoup entouré par la culture du secret, par la notion aussi des corps, c'est-à-dire on a aussi ce rapport au corps qui est différent, notamment des coachs avec leur athlète féminine, avec peut-être parfois ce sentiment d'appropriation, c'est-à-dire qu'à la fois on cache, on a nos recettes secrètes, et ce corps peut-être qu'on peut se permettre, on s'abroge le droit de pouvoir le toucher, le modeler, et donc forcément parfois de le violenter.
Tout à fait, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments sur lesquels le sport fait partie, on va dire, quelque chose de plus large. Donc on trouve des choses comme dans d'autres secteurs, mais il y a quand même des spécificités. Le fait d'aller vraiment vers la performance, c'est quelque chose qui va aussi parfois justifier des éléments. Et ça, c'est vrai dans des secteurs qui sont plutôt historiquement masculins. Et c'est vrai aussi, j'ai envie de dire, en journalisme, si on veut faire le parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est un peu, à la fois, on va accepter de souffrir dans différents sens du terme, si ça aboutit à un résultat. Et le deuxième élément, c'est aussi que ça relève d'une passion. Et donc, en fait, il y a peu d'élus. Et donc, en fait, ça amène les personnes à accepter plus facilement, ou en tout cas à se dire qu'elles vont être moins écoutées, simplement parce qu'on peut considérer qu'elles ont de la chance d'être là. C'est vrai en journalisme, c'est vrai aussi en sport. Après, il y a vraiment... Alors nous, on fait un peu... pour les recherches, en fait, on va regarder aux différents niveaux. Mmh. Et en fait, on va avoir à la fois un niveau qui est, on va dire, entre les personnes elles-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on peut partager avec cette idée de virilisme, effectivement, et ça peut être partagé avec les fans, avec les autres athlètes, donc ça peut être ce type de violence-là. Mais on va avoir aussi quelque chose de plus large, en fait, du point de vue de l'organisation elle-même. Parce que comme le secteur est historiquement masculin, ben on va trouver des entraîneurs qui sont plutôt masculins, un staff qui est plutôt masculin. Et là aussi, en fait, on a une organisation un peu sur cette idée de secret. C'est aussi, en fait, comment on arrive à faire réussir, en tout cas faire performer un athlète ou une athlète. Ben en fait, on a l'impression que chaque entraîneur peut un peu faire ce qu'il veut. Et donc, on va médiatiser des entraîneurs qu'on va qualifier comme ayant un gros caractère, par exemple. Et en fait, ça peut aussi cacher des éléments. Et puis, il y a la biologisation qu'on va trouver dans le sport, pour lesquels on va se permettre beaucoup plus facilement à la fois de comparer hommes et femmes, ce qu'on essaye de moins faire dans d'autres secteurs qui sont peut-être plus policés, mais aussi parce qu'on considère que finalement, le corps, c'est l'instrument qui va permettre de performer. Et donc, en fait, on peut agir sur l'athlète, à la fois sur lui dire ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut dormir. Et donc, en fait, on a beaucoup plus, finalement,
d'emprise. Une sorte de mainmise, effectivement, sur le corps, en écoutant bien ce que vous me disiez, c'est-à-dire un entre-soi masculin, une culture du dolorisme, un peu de la douleur qui est récompensée, et une hyper-concurrence aussi qui fait, justement, pour ces femmes, que lorsqu'elles sont en place, c'est compliqué d'aller dénoncer une situation même problématique, de peur de perdre un statut qu'elles ont mis tant de temps, justement, à tenter d'acquérir. Peut-être une réaction avec tout ce qui vient d'être dit, Mejdaline Miri.
Oui, non, c'est effectivement ça, la culture du dolorisme est très très forte dans le sport. Et puis, Sandy a commencé à le dire, le fait qu'il y ait très peu de femmes dans les staffs, mais aussi à la direction du sport, ça participe aussi à ces stéréotypes et puis à ces violences mises en place. Aujourd'hui, il y a une seule femme qui est présidente d'une fédération d'un sport olympique d'été sur 36. C'est vraiment très très peu. Et je vois bien dans ma profession, le journalisme de sport, on est seulement 15%. Et seulement 9% par exemple en radio, parce qu'il y a beaucoup du commentaire sportif en radio et qu'en fait on nous fait toujours pas confiance concernant notre expertise et notre voix qui poserait problème, on deviendrait potentiellement hystérique sur un but. Et en fait ça on nous le dit plus, contrairement à il y a quelques années, à ce qu'avait pu dire Denis Balbir il y a pas si longtemps, on nous parle plus forcément
Denis Balbir, donc journaliste sportif qui est passé notamment par Canal+ et ensuite par Udine Sport.
Ouais, et qui avait dit ça quand il était sur M6, je crois que c'était en 2018, donc c'était il y a moins de 10 ans. Mais en fait, personne ne nous dit ça concrètement avant d'être employé ou de ne pas être employé. Personne ne dit vous allez devenir hystérique. Mais à la fin, on n'est pas embauché pour commenter du sport. L'une des rares à le faire d'ailleurs, c'est sur France Inter, Fanny Lechevestrier. Mais sinon, il y a très peu de femmes qui commentent du sport, et particulièrement quand le sport est masculin.
Voilà, et on reviendra évidemment sur la question du journalisme. On va alterner ce qu'il y a devant les caméras, entre guillemets, et derrière. Si on revient derrière en tant que journaliste, Marc Le Plongeon, j'imagine que lorsque cette cellule enquête-investigation s'est montée à l'équipe, vous allez nous rappeler ses origines, peut-être que ça a pu un peu heurter certains journalistes de la rédaction, puisque on va y revenir sur la question aussi de la proximité entre les sources. C'est-à-dire qu'on est journaliste sportif, interviewer les athlètes, les stars, c'est quelque part le métier pour participer à ce grand spectacle, en rendre compte, en vivre aussi d'une certaine manière. Et lorsqu'on a une cellule enquête-investigation, ça peut rentrer en conflit par rapport à ce pacte initial.
Oui, alors absolument. Alors il y a deux cultures en réalité journalistique qui coexistent à l'équipe. Il y a le journaliste de la grande histoire sportive, où on est là pour raconter l'exploit sportif, pour accompagner les champions dans les médailles qu'ils vont décrocher et les compétitions qu'ils gagneront. C'est un journaliste d'émotion, de grandes illusions et de grandes désillusions. C'est la joie et la tristesse du sport. Et puis on a un autre journaliste qui coexiste avec tout ça depuis quelques années. Ça fait 8 ans maintenant, je crois, qu'un service enquête a été créé. Il a été pourvu aux journalistes qui ne sont pas issus du journalisme sportif. Moi, je l'ai rejoint il y a environ 4 ans et je viens du journalisme police-justice, comme on dit. Donc, j'ai pas de compétences particulières sur le sport, à part mes quelques runnings que je fais dans la semaine, mais je serais bien incapable d'aller commenter un match de Ligue 1. Et donc, on en est venu à raconter les coulisses des exploits sportifs, mais aussi et surtout les flux financiers, la criminalité organisée dans le sport, les violences, le harcèlement moral et bien évidemment les violences sexistes et sexuelles. Ça tient aujourd'hui une place assez considérable parce que c'est des enquêtes qui sont particulièrement exigeantes, c'est des enquêtes qui mettent du temps avant de pouvoir être publié. C'est des enquêtes sur lesquelles on essaie d'être le plus rigoureux possible, parce que ça, pour le coup, ma consoeur le décrit très très bien. Il y a un choix des mots qui doit être employé.
Bien sûr, justement, mais Marc Le Plongeon, pardon, juste oui. quand ce qui nous intéresse à la fabrique de l'information aussi, c'est les tensions peut-être oui. qui peuvent parfois surgir à l'intérieur d'un journal. Et d'ailleurs, je le dis même parfois en termes de lecteur, hein, quand on est un lecteur, on adore adorer des joueurs, on adore on participe tous à ce spectacle-là, et c'est vrai que lire un article sur les violences sexistes et sexuelles, parfois ça peut demander un effort, en se disant c'est pas forcément ce qu'on aura envie de lire dans les pages de l'équipe, et pourtant on voit bien que c'est nécessaire, surtout dans un journal qui a le monopole de l'information sportive.
On nous le fait remonter en réalité très régulièrement. Parfois, j'ai des débats comme ça avec des collègues, avec des lecteurs, avec la chefferie aussi. Ça peut arriver de quelle place on donne à cette information qui est beaucoup plus austère, qui est plombante, c'est le mot que j'ai parfois entendu et je pense qui est vrai. Il faut comprendre que dans des pages comme ça, par exemple, on parlait, ma consoeur parle dans son livre de la situation de Bruno Martini, qui est un handballeur français, doublement champion du monde, qui a dirigé la Fédé et qui a été condamné pour corruption de mineurs des années après sa carrière. Il va y avoir dans l'équipe une chronique de ses exploits sportifs. Il y aura une interview de Bruno Martini où Bruno Martini expliquera aux gens qui l'ont suivi dans ses exploits pendant des années comment il en est arrivé là, pourquoi il y a eu, selon lui, cette condamnation et quels sont ses sentiments à lui par rapport à cette affaire. Ce qui ne nous empêchera pas, nous, de suivre le procès de Bruno Martini, ce qu'on a fait. On était à son audience d'homologation de sa comparution de reconnaissance préalable de culpabilité dans cette affaire. Et on a ces deux informations qui vont exister, le sportif et le sociétal. Je pense que quand on est l'équipe, on ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Maintenant, c'est à notre position, dans notre rôle, de pouvoir expliciter tout ça à nos lecteurs et de le faire dans la plus grande transparence possible. Ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas toujours facile de faire coexister l'intérêt sportif et l'intérêt de ces violences qui émaillent le milieu du sport et toute la société.
Mejdaline Miri, vous qui avez donc analysé les médias dans le cadre de ce livre dont j'ai rappelé tout à l'heure le titre, La zone d'impunité, comment vous avez analysé cette tension dont on vient de parler ?
En fait, on s'est rendu compte que les violences n'étaient pas du tout traitées de la même manière quand c'était une athlète femme qui les dénonçait et que c'était potentiellement un entraîneur pas connu, pas spécialement aimé, en tout cas du grand public parce que, inconnu. Quand c'était une athlète femme qui les dénonçait, là, on tendait le micro facilement, on écoutait, et il y avait relativement peu de conditionnels. Sa parole était prise comme telle. À l'inverse, quand c'est un athlète homme qui est potentiellement accusé d'être l'agresseur, eh bien, à ce moment-là, il y a toute une série de mécanismes qui se mettent en place. Et on a remarqué des problèmes récurrents qui sont relatifs à la minimisation de ce qu'il a pu faire. Le soupçon sur la parole de la plaignante, est-ce qu'elle veut de l'argent ? Qu'est-ce qu'elle cherche en portant plainte pour viol, par exemple ? On glorifie la carrière sportive de l'athlète. Et surtout, parmi les choses qu'on a noter systématiquement, c'est que justement il y a une absence d'analyse systémique. On parle jamais de culture du viol dans les rédactions de sport, on parle jamais de la société patriarcale et pourtant on est tous complètement pris par ces biais-là. Et c'est comme ça qu'on choisit les mots dont on parle et en fait on s'est rendu compte que il y avait des mots qui ne convenaient pas dans la manière dont on parlait des violences, du genre gestes déplacés, affaires extrasportives, et en fait c'est des mots valises dans lesquels il y a un grand flou qui est entretenu, et c'est ça qu'on a appelé la zone d'impunité. C'est cet espace où finalement on ne définit plus les violences et où les athlètes font à peu près ce qu'ils veulent. On ne sait plus trop bien exactement ce qu'ils ont fait et ce de quoi ils sont accusés. Et à la fin, on n'est pas bien sûr qu'ils soient coupables.
Sandy Montagnola, vous partagez justement ce constat, quelque part cette défiance un peu systématique que l'on peut avoir par rapport à la parole de la victime, surtout lorsque vous venez de le rappeler, cette victime est une victime entre guillemets qui n'est pas connue. Il n'y a pas l'aspect notoriété sur lequel on peut s'appuyer, notamment avec une athlète féminine.
Tout à fait. Je pense que c'est intéressant si on prend un peu de recul sur les recherches qu'on peut avoir donc de façon plus générale sur des corpus beaucoup plus gros et pas limité à une affaire. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça vient se cumuler. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle affaire, au lieu d'avoir une vision qui serait une vision plus générale d'un problème, qui est un problème lié à la question des violences de genre, donc spécifiquement lié au fait qu'il y ait un homme et une femme, et donc des rapports de pouvoir entre les deux dans un secteur qui est celui dans lequel on attend que les personnes performent, mais en fait, on passe à côté de cet élément-là. Et finalement, ce que montrent les recherches, c'est qu'on est sur à la fois une individualisation, donc on va aller plutôt, et je pense que ça tient au fonctionnement économique dont on parlait avant, c'est-à-dire en gros, si on repart de la notion d'audience, si les médias se disent, en fait, il va y avoir un public pour ces questions-là, mais uniquement si on le traite sous un angle un peu fait divers, ou un peu plus sensationnaliste. Donc en fait, l'individualisation, c'est que on va donner des détails. Parce qu'en fait, on revient ici sur une notion qui est celle des célébrités, en fait, des athlètes. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des différences de traitement si les sportifs sont connus ou pas, ou si les personnalités qui sont impliquées sont connues. Et ce que ça amène finalement ici, cette individualisation, c'est qu'on va invisibiliser les causes. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que ce ne serait pas spécifique au genre, ce serait spécifique à un caractère en particulier, à une, on va dire à un contexte. Hein. Et donc, sans venir questionner la place du sport et le silence qu'on peut demander et l'impact qu'il va y avoir sur les carrières. Parce que l'impact est fort et ça veut dire que prendre la parole dans les médias, bah, c'est aussi un risque pour les athlètes. C'est vrai aussi pour les journalistes, dans le contexte très concurrentiel dont on parlait tout à l'heure.
Marc Le Plongeon, par rapport à ce qui vient d'être dit, et c'est vrai que lorsqu'on lit différents papiers dans la presse sportive qui essayent de relater les affaires qui concernent les joueurs, on sent qu'il y a un difficile recueil de la parole des victimes contre, par exemple, la parole de l'entourage. On voit beaucoup de déclarations de l'entourage des joueurs, on essaie d'expliquer que il a une personnalité un peu comme ça, qu'il est un peu, qu'il reste attachant, naturel, authentique. Est-ce que vous êtes, j'imagine, vigilant, vous, encore une fois, dans ce service enquête, à replacer très justement la parole de la victime qui ne se retrouve pas potentiellement noyée par celle de l'entourage, qui est toujours prompte d'ailleurs à parler?
Oui, alors il faut effectivement faire une distinction assez forte entre les affaires qui mettent en cause des célébrités et les affaires qui mettent en cause des personnalités dont personne n'a jamais entendu parler. Il y a deux points là-dessus. À l'équipe, on traite les deux. On s'est demandé à un moment, et c'est des débats qu'on a encore au quotidien, au vu de l'afflux d'affaires qui nous remontent dans les services, si on doit tout traiter, si on doit se contenter de traiter les affaires qui mettent en cause des personnes connues ou pas. Mon point de vue, moi, là-dedans, c'est qu'il faut en traiter le maximum avec des angles différents, qu'il faut traiter des affaires en fonction de la pluralité de victimes, en fonction d'un mode opératoire différent, en fonction d'une nouvelle interprétation jurisprudentielle sur la notion d'emprise, sur la notion d'agression sexuelle. Donc, on essaie d'avoir le scope déjà le plus large possible pour justement essayer d'avoir un traitement un peu plus systémique et un peu moins individuel de chaque situation. Ensuite, c'est évident, quand on parle d'une affaire, quand on écrit sur une affaire qui met en cause un sportif très connu, on est extrêmement vigilant. Je m'explique, je pense que quand des collègues de la presse d'information généraliste traitent des informations de fait de probité publique sur des ministres, ils vont avoir une prudence également dans la manière et le choix des mots. On va rechigner aussi à désigner un certain nombre de faits par des mots, par le viol, par l'agression sexuelle. Et c'est là où vont apparaître des mots comme geste inapproprié, comme comportement déplacé. Là-dessus, je n'ai pas une doctrine très établie parce que je considère aussi qu'on n'a pas se substituer à la justice là-dessus. On reste journaliste et tant que la justice ne qualifie pas ces faits-là d'agression sexuelle ou de viol, ce n'est pas forcément à nous de le faire.
Si je peux me permettre, Marc Le Plongeon, mais a priori, c'est la juste. Enfin, il y a une plainte. Donc, quand il y a une plainte, cette plainte, elle
pas
est qualifiée.
Toujours. Non,
mais parfois. Si on prend par exemple un exemple concret, prenons l'exemple d'Achraf Hakimi, puisque finalement, on l'a cité au début, c'est un exemple assez actuel et je pense que là, on peut parler d'une star mondiale même. Bon, là, il s'agit d'un. C'est une plainte, c'est une accusation de viol. Là, pour le coup, le mot a été qualifié par la justice. Donc, j'arrive pas à voir pourquoi c'est à vous d'interpréter potentiellement dans vos mots ce qui relève d'un geste inapproprié ou d'un viol.
Nous, on n'interprète pas. Ça, je vous donnais la situation dans laquelle, par exemple, on recueille la parole d'une victime qui, elle, nous dit « Moi, je pense avoir vécu un viol ». Mais il y a aussi plein d'affaires, et parlons de l'affaire Achraf Hakimi, où la partie civile elle-même, dans ses auditions, dira qu'elle n'a pas ressenti les faits comme un viol ou comme une agression sexuelle, et que c'est la police qui a mis ces mots-là. Pour cette affaire. Il y a aussi le risque, et c'est un risque juridique majeur, qu'on soit poursuivi sur des fondements de la loi sur la liberté de la presse de 1881 et qui nous oblige à employer un certain nombre de conditionnels, et ce sont nos avocats qui réclament un certain nombre de précautions. Je remarque par exemple que quand l'affaire Wissam Ben Yedder est sortie,
joueur de l'AS Monaco,
absolument international, international français, un des buteurs les plus prolifiques du championnat, et on a fait 20 pages dans le mag où on a raconté toute l'histoire. On a raconté notamment que dans le cadre d'une autre affaire, il avait payé, lui dit que c'est son entourage qui l'a poussé à le faire, mais qu'il avait payé 1,6 million d'euros pour empêcher une jeune femme de porter plainte, et que cet argent avait transité par l'ancien président de l'AS Monaco, et donc qu'il y avait une sorte de protection systémique du joueur dans ce qui lui était arrivé. On a sorti un certain nombre de révélations, et aujourd'hui, le joueur a obtenu, dans le cadre d'une autre affaire dans laquelle il était poursuivi pour viol, l'annulation de son renvoi devant la cour criminelle départementale. Et c'est une décision qui a été actée par la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce que je veux dire, c'est que des fois, les affaires ne vont pas jusqu'au bout et que nous-mêmes, on ne peut pas qualifier de viol ou d'agression sexuelle quelque chose qui n'est pas... Pour lequel la justice ne s'est pas prononcée définitivement. Donc on doit être prudent par rapport à ça.
D'ailleurs, je rappelle un chiffre de l'INSEE, il y a 0,6% des viols ou tentatives violentes qui ont donné lieu à une condamnation en 2020. Donc le chiffre remonte à quelques années, mais...
C'est exactement pour ça, et c'est pour ce chiffre que vous donnez. Quand mon confrère dit qu'on n'a pas à se substituer à la justice, effectivement, en fait, on ne fait pas le même métier que les juges et que les magistrats. Nous, notre champ de travail, il est vraiment différent. Et c'est... Je trouve qu'on a trop tendance ces dernières années à dire, comme on fait pas le travail de la justice, alors on fait pas le travail avant qu'il y ait des choses qui puissent être faites, etc. Et je l'ai lu dans les travaux de recherche de Claire Ruffio, de Giuseppina Sapio, qui disait à quel point est-ce que ces dernières années, le journalisme avait tendance à se judiciariser et donc à attendre à tout prix que la justice se prononce. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est qu'entre une plainte pour viol et un procès, la moyenne, c'est 7 ans. Que vous l'avez rappelé à la fin, ça n'est quasiment pas les viols et les agressions sexuelles de manière générale sont très généralement classés sans suite, etc. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que globalement, les femmes ne mentent pas. On les a, les chiffres, maintenant. Et donc, il faut que nous autres journalistes de sport et d'ailleurs, il faut qu'on ait en tête, quand on démarre nos enquêtes, quand on démarre notre recherche, que les femmes ne mentent pas. Ça peut arriver, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous, on travaille pour aller vérifier des faits, etc. Mais maintenant, on les a, les chiffres. On les connaît. Et donc, si on continue de dire, ah là, peut-être qu'il y a ambiguïté, etc., on va droit dans le mur. Et pour revenir sur l'affaire Achraf Hakimi, moi, vraiment, quand je lis dans l'équipe notamment qu'il y a une contradiction entre le fait que la plaignante, elle puisse être en petite tenue sur les réseaux et à la fois se décrire comme timide, je me dis, mais ça, c'est exactement le signe qu'on a des biais, des stéréotypes profondément ancrés en nous. On a tous grandi dans la culture du viol et en fait, les mots que l'on choisit après dans nos papiers, ils sont issus de cette culture-là. Et si nous, on ne se déconstruit pas en écoutant les féministes, en écoutant des experts, des expertes, si on ne fait pas ce travail-là, on la reproduit sans cesse, cette culture du viol.
Alors, culture du viol, culture de l'impunité, peut-être, du viol. Sandy Montagnola.
Je pense que cette crainte qui était abordée, c'est précisément, ça fait partie du contexte qu'on évoquait tout à l'heure, du sport. Parce que dans ces rapports... donc genré dont on parlait, ce qu'on voit, c'est toujours en fait une inégalité très forte entre une personne qui peut être un athlète ou qu'on peut considérer comme une célébrité, qui de fait va être protégée par une institution qui peut être son club, qui peut être une fédération, qui peut être... Et donc en fait, cette inégalité va amener aussi à une forme de pression qui n'est pas spécifique au sport, c'est-à-dire que quand on va travailler sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire, on peut avoir les mêmes pressions sur les rédactions, mais ça fait aussi partie des éléments qui peuvent empêcher en fait les rédactions ou les journalistes de pouvoir enquêter sur ces thématiques-là, justement par la crainte de se dire, mais en fait, on peut aussi être attaqué. Mais en fait, ça fait aussi partie de cette forme de pression, d'une façon de rendre une sorte de silence, parce qu'en fait, ça se négocie beaucoup, parce que c'est aussi là une question qui est une question financière. Là, Mejdaline a abordé un des éléments qui peut être invoqué sur le caractère des personnes ou leur comportement, mais on a cet élément, mais il y a aussi un autre élément qui est celui financier. C'est-à-dire, va peser un soupçon sur les femmes, par exemple, de, en fait, est-ce qu'elle ne fait pas ça pour obtenir de l'argent ? Donc, en fait, on aurait tendance à venir discréditer en amont des éléments, en fait, en allant questionner les motivations, en allant questionner... Et donc, en fait, si on, de fait, ne déconstruit pas ces éléments-là, si on ne se remet pas dans ce contexte-là, on passe peut-être un peu à côté de la spécificité de ce rapport de force, en fait, qui se fait clairement entre quelqu'un qui va attaquer, si on peut dire, et une... Voilà.
Et sur la question de l'argent...
Mais Jalène Miri.
Sur la question de l'argent, juste, c'est important parce que nous, on a cherché avec Clotilde Lecaus, donc, des informations à ce propos quand on a fait le livre, et on a échangé notamment avec l'association MeToo Media, qui nous a donné les chiffres de, en moyenne, à la fin des potentiels cette année de procès pour viol, etc., il y a eu une condamnation, ce qui n'arrive donc déjà pas souvent, et que derrière, il y a dédommagement pour la victime, on est un petit peu au-dessus des 11 000 euros. Et ça lui a coûté un petit peu au-dessus de 10 000 euros. Ça, c'est la réalité du système français. Donc, est-ce qu'une femme va porter plainte pour viol pour environ 1 000 euros ? Enfin, je veux dire, c'est très important d'avoir ces chiffres-là quand on travaille.
Et X années, vous l'avez dit, de pression médiatique.
Et tout ça, ça ne comprend pas, évidemment, les séances chez le psy et tout ce que je... Enfin, je veux dire, et la santé que l'on doit recouvrer pour réussir à aller mieux. Donc, vraiment, je crois que si nous, en tant que journalistes, on travaille sans avoir ces données-là, je crois qu'on est dans l'erreur.
Pour finir sur l'affaire Hakimi, avant de redonner la parole à Marc Le Plongeon, on a pu aussi voir les supporters parisiens qui tout de suite vont lancer une banderole dans le virage en disant soutien total, alors que finalement, bien sûr, personne ne dit ici que Achraf est innocent ou coupable, c'est à la justice de le décider, mais une affaire est en cours. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré cette affaire qui est en cours, comment finalement la situation est traitée. Alors, par les supporters, c'est un soutien total, je dirais, un soutien aveugle. Ensuite, dans les pages, justement, sportives, et ça, c'est là où c'est intéressant, Marc Le Plongeon, de le revoir avec vous. C'est-à-dire qu'évidemment que, bon, voilà, c'est la décision du club de continuer à faire jouer son joueur, alors qu'on peut imaginer que dans d'autres secteurs, on pourrait disqualifier, finalement, le temps que l'affaire se résolve, les performances ou l'activité professionnelle d'un joueur. Alors, ça serait très coûteux, hein, c'est très bien qu'une carrière sportive, ça se joue quelques semaines, quelques mois, donc il y aurait un impact financier très important à cela, néanmoins on le remarque. Et j'ai en mémoire aussi l'histoire de Greenwood, donc un attaquant anglais jouant aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, qui lui aussi avait eu des histoires et des démêlés avec la justice, notamment avec une plainte de sa femme pour violence conjugale, et qui n'a pas été continué à être sélectionné par son club, à savoir Manchester. Donc l'Angleterre a dit, peu importe en fait que cette affaire aboutit à un non-lieu, moi je décide de ne plus sélectionner mon joueur, et qui a rebondi justement à l'Olympique de Marseille. Et il y a eu ce titre dans le journal L'Équipe qui disait « OM Greenwood, l'amour sans condition ». Et qui, je trouve, là, est assez révélateur de cet amour, qui serait donc un amour passion, de cette passion qui l'emporterait sur les faits, comme si on avait ce droit de ne plus d'avoir ce sentiment d'impunité qui naît justement d'une passion débordante. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Marc Le Plongeon ?
Alors, y a différentes situations. Pour le cas d'Achraf Hakimi, est-ce que on a interrogé, au moment où il a été renvoyé, où il y a eu une décision de renvoi devant la Cour criminelle départementale, on a interrogé un certain nombre d'instances, d'institutions, d'associations, son club, pour savoir s'il souhaitait réagir et s'il souhaitait normal qu'un vice-capitaine qui est renvoyé dans une affaire de viol soit toujours sur le terrain, soit soutenu par les supporters publiquement à travers une banderole qui avait été introduite dans le stade. Et on n'a jamais eu de réponse. On n'a eu que des pas de commentaires ou des commentaires en privé de soutien aux joueurs. Est-ce que, du coup, ça doit interdire aux journalistes de L'Équipe qui couvrent l'événement sportif de jauger de la prestation du joueur sur le terrain à partir du moment où il joue ? J'en doute. Dans le cas de Mason Greenwood, ce sont des faits, et là, il y a un cynisme qui est encore un peu plus fort, puisque l'Olympique de Marseille, quand il est allé recruter Mason Greenwood, il l'a justement recruté parce que sa valeur avait été déprécié à la suite de cette affaire.
Et qu'il devenait accessible.
Il devenait accessible. En revanche, je crois qu'il bénéficie d'une faible visibilité dans la presse. Je crois, mais mes collègues me détromperont peut-être, mais il me semble que le service foot de L'Équipe n'a jamais sollicité Mason Greenwood pour une interview. Ce qui signifie bien qu'il n'y a pas une recherche de donner déjà de la visibilité à ce joueur qui a eu en Angleterre une affaire de violence conjugale.
Même si l'amour sans condition, vous comprenez que ce titre a pu choquer quand même, Marc Le Plongeon.
Ah, mais et c'était.
Il vous choque peut-être vous aussi d'ailleurs.
Qui était choquant, et je crois même d'ailleurs qu'on s'en est excusé dès le lendemain et que c'était une expression qui était extrêmement maladroite. Et je pense d'ailleurs que c'est là où le livre de ma consoeur sonne juste, c'est qu'il ne cherche pas à jeter des anathèmes sur les journalistes, à les accuser. Au contraire, il démontre aussi qu'on peut se tromper, qu'on peut véhiculer aussi des expressions bien malgré nous, et que la première façon de faire avancer les choses, c'est aussi de s'en rendre compte et de s'en excuser. Je tiens à rebondir là-dessus sur la situation aussi d'Achraf Hakimi, mais de plein d'autres sportifs célèbres. Il y a en réalité trois justices qui coexistent dans ce genre d'affaires. Il y a évidemment la justice pénale, qui est beaucoup plus longue que les autres. Et ensuite, il y a une justice
administrative, qui est celle rendue par le ministère des Sports, et il y a une justice fédérale, qui est celle qui est rendue par les fédérations. C'est-à-dire que quand on a une affaire de violence sexiste et sexuelle, ou d'ailleurs une toute autre affaire, il peut y avoir une enquête pénale, et derrière, il peut y avoir des mesures conservatoires qui vont être prises par une fédération ou par une ligue, et qui vont, par exemple, consister à suspendre 6 mois tel encadrant, tel sportif de ses fonctions. Mais en fait, la justice pénale est tellement longue à passer que très souvent, l'affaire continue, le joueur, l'encadrant, le coach, le président de club va reprendre ses fonctions alors même que l'enquête est encore en cours. Et face à ça, il y a une espèce d'anachronisme terrible entre des temps judiciaires, des temps de réponse, des temps d'enquête. Et il arrive même parfois, je vais prendre un nom connu qui est celui de Jimmy Gressier, dont l'équipe a révélé qu'il faisait l'objet d'une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel. Et au moment où l'équipe a sorti cette information, on savait déjà que la Fédération française d'athlétisme l'avait blanchi de son côté. Et donc, vous voyez, on a parfois cette espèce de double temps, de triple temps, qui est extrêmement néfaste pour y voir un petit peu plus clair dans le traitement des VSS par les autorités.
VSS, ce sont toujours des violences sexistes et sexuelles.
Toujours.
France Culture, la fabrique de l'information, François Celtiel.
Et de ces violences sexistes et sexuelles, c'est le sujet de notre émission du jour sur le terrain du sport, qualifié de zone d'impunité par Mejdaline Miri, qui est notre invitée et donc autrice de ce livre « La zone d'impunité, critique du traitement médiatique des violences sexuelles et sexistes dans le sport ». Marc Le Plongeon qui vient de s'exprimer, qui est journaliste, chef du service enquête du journal L'Équipe, et Sandy Montagnola, qui est maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Rennes. On l'a un peu dit tout à l'heure sur la culture du secret, néanmoins je pense que c'est quand même un élément très important de cette particularité du sport, Sandy Montagnola, c'est la difficulté aussi d'arriver à obtenir des informations du côté des fédérations, d'arriver à avoir un accès finalement à ces sources et qui compromet potentiellement la révélation d'enquêtes ou l'éclatement de certaines vérités.
C'est vrai qu'à l'inverse d'autres secteurs, on n'a pas accès au sport comme on le veut. C'est pas forcément public et donc ouvert et accessible à tous et toutes. Et ce qu'on a vu, nous, sur nos terrains de recherche, en fait, c'est des négociations qui sont quand même assez difficiles. Une évolution très forte aussi des relations entre les journalistes et les athlètes, avec clairement une mise à distance. Parce que de plus en plus, et je pense qu'une partie du débat ou des échanges qu'on a là, c'est aussi l'importance de ce qui est financier, donc à la fois du côté des médias, parce que ça ramène en termes d'audience, etc., mais aussi du côté du sport. Et donc, en fait, on a des difficultés à accéder aux athlètes. Quand on y accède, en fait, on a ce qu'on a peu dans d'autres secteurs, si on enlève, on va dire, le secteur politique, c'est-à-dire qu'on fait valider les questions avant une conférence de presse. Il y a vraiment une négociation qui se fait entre les journalistes, et donc ça veut dire selon les médias, on a plus facilement accès aux joueurs ou aux joueuses, et surtout il y a tout un encadrement en fait maintenant qui est fait pour, alors ça dépend beaucoup des sports évidemment, mais il y a vraiment un staff maintenant du média training. On a des agents qui vont dire là en fait tu peux prendre la parole ou pas, tu vas pouvoir aller parler de telle ou telle chose, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile.
Il y a un verrouillage de l'information.
Exactement. Il y a à la fois un verrouillage.
Contrôle et un verrouillage.
Et j'ai envie de dire une sorte de mélange maintenant, parce que verrouiller, ok, ce serait juste, on ne va pas parler aux journalistes. En fait, je pense qu'on est un peu plus loin maintenant, c'est de se dire, en fait, on peut utiliser certains médias pour aller, en fait, amener, comme on va dire maintenant, plutôt des récits, la petite histoire, Donc, en fait, on construit des éléments et on les construit pour les médias. Et nous, sur le terrain, c'est ce qu'on a vu. On a suivi des journalistes pour un de nos terrains d'enquête, par exemple la BBC, la RAI et France Télévisions. Et on a vu des choses...
Lors des Jeux Olympiques
Non, on avait fait sur les championnats du monde d'athlétisme. Et en fait, on a vu parfois des éléments qui sont préconstruits pour les médias. C'est-à-dire que puisqu'ils ne vont pas avoir accès forcément aux athlètes, puisqu'il y a aussi la barrière des droits télé, puisqu'il y a une négociation, en fait, on construit des petits éléments pour eux et qui sont des éléments, donc on va, les responsables comme vont dire par exemple c'est des éléments un peu sympas. Ça veut dire que dans ce cas-là, on a la maîtrise complète de ce qu'on veut montrer.
Ce qu'on peut voir aussi dans la communication politique, hein, finalement, où on va avoir des partis qui vont livrer clé en main des éléments, des images. Mais peut-être que dans le sport, c'est encore plus dur aussi d'avoir accès à ces personnalités qui ne naviguent pas dans l'espace public.
comparativement justement au personnage politique qu'on peut aller chercher à différents endroits, hein, ne serait-ce que à l'Assemblée nationale, ne serait-ce que dans des manifestations. Là, c'est très dur d'approcher finalement les sportifs.
Et c'est aussi lié à ce fonctionnement dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment un écosystème complet avec des sponsors, avec des agents et parfois la prise en compte aussi dans les équipes de ce que l'athlète va dire dans les médias. Et donc, ça veut dire qu'en fait, la liberté, y compris pour les athlètes, peut être assez limitée. Donc, plus ils sont sur des, on va dire, des grands clubs ou des sports qui sont très suivis, plus les enjeux sont élevés et finalement, moins ils peuvent le faire. Et il y a un autre élément qui est, à mon avis, très, en fait, qui s'impose beaucoup, c'est que finalement, une partie du monde sportif s'est dit finalement, est-ce qu'on pourrait pas se passer juste des journalistes ? Parce qu'ils peuvent avoir une approche critique, ils peuvent enquêter.
Surtout quand on embauche des journalistes au sein des clubs.
Exactement. Et donc, l'idée, c'est exactement ça. C'est de se dire, est-ce qu'on peut pas se passer d'eux ? Est-ce qu'on peut pas commencer à parler de création de contenu ? Est-ce qu'on peut pas... Parce que, et on revient au point de départ, c'est si on partage cette idée que finalement, on va tous... On est là un peu pour célébrer, on va dire, la performance sportive, etc. Et ben dans ce cas-là, finalement, il n'y a pas de différence entre le journalisme et puis ce qu'on pourrait faire. Donc, c'est une vraie difficulté d'accès, quoi.
Mais Jaline Miré.
Oui, je voudrais rebondir sur plusieurs choses que mon confrère a dit, parce que je crois que c'est vraiment des questions qui sont posées à notre profession. Quand est-ce qu'on parle des violences des athlètes ? Parce que nous, puisqu'on fait régulièrement des comptes rendus de match, ce genre de choses-là, est-ce que c'est la place, par exemple, pour parler des violences d'un athlète accusé ? Je ne crois pas, je n'ai pas l'impression. Il faut qu'on ait cette discussion peut-être plus globalement.
On parlait, pardon, mais je vous interromps deux secondes, de rappeler à chaque fois que l'on cite, par exemple, pourquoi pas aujourd'hui Achraf Hakimi, qu'un petit astérix en disant « le joueur fait l'objet de... »
Voilà. Ça, typiquement, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, je dirais de manière plus presque officielle, globale.
Et une sorte de charte, en fait.
Exactement, ouais. Et qu'on rende ça public. Ça, je crois que c'est important de se poser cette question-là, mais on peut décider que non. On peut décider qu'il y a des articles qui sont totalement dédiés à la chose sportive. Mais je me souviens que j'avais été marquée, justement, par, après le titre de Jimmy Gressier, un long papier qui revenait donc à la fois sur son titre, mais aussi sur son parcours. Et en fait, à partir du moment où on sort uniquement de la compétition et uniquement de la course qu'il a gagné, si on parle de son parcours, alors on ne peut pas faire l'économie des accusations dont
c'est-à-dire
il a fait...
Si on plonge dans le personnel, il faudrait effectivement...
On est obligé de faire ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, si mes souvenirs sont bons, ni Le Figaro, ni Le Parisien, ni l'équipe n'en parlent le lendemain. Je lis dans Libération son portrait et ce qui est signifié comme un accro, je cite, un accro à sa carrière, c'est que quand même, il y a un moment où, bon, bah, le champion, il y a eu un petit problème, hein, mais bon, finalement, il a quand même réussi à être champion. Et dans l'équipe, puisque le papier qui redonne à la fois sa course, mais aussi son parcours n'en parle pas, il y a une interview juste à côté où, du coup, on donne la parole à Jimmy Gressier après sa course. Et lui, évidemment, derrière, il dit, on a cherché à mettre des bâtons dans les roues, je ne sais plus exactement quels sont ses propos exacts.
Rappelez-nous, mais... justement, l'objet du contentieux avec, avec ce sportif.
Il y a eu du coup une plainte pour harcèlement sexuel déposée et qui a été classée sans suite. Voilà, l'histoire en est à peu près là. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, puisque nous on ne fait pas notre boulot de rappeler qu'il y a eu que c'est ce qui s'est passé dans son parcours, et ben lui il peut se réapproprier son récit et dire on a cherché à mettre des bâtons dans les roues, mais regardez, je triomphe toujours. Et en fait, quand je cite ce papier de Gressier, mais on n'a même pas eu le temps de le mettre dans le livre parce qu'à ce moment-là, on avait déjà assez d'exemples. On a vu que c'était passé exactement la même chose pour Alexander Zverev, exactement
donc
la même chose.
Le joueur de tennis,
ouais, pardon.
Lui aussi avec des compliqués, enfin une affaire judiciaire liée à des plaintes de sa femme.
De son ex-conjointe. En fait, il y a deux femmes qui ont partagé sa vie qui parlent d'étranglement. Et donc, il a été condamné dans une première fois par la justice en Allemagne et il passait en appel quand s'est déroulé Roland-Garros, et là de nouveau dans l'équipe, il est décrit comme, puisqu'il y a la présentation des deux finalistes à ce moment-là, comme le résistant avec un grand R, ce qui charrie quand même un certain nombre d'idées quand on est en France. Alors moi, au-delà du fait que appeler un Allemand un résistant, c'est quelque chose qui me pose question, mais au-delà de ça... c'est encore autre chose. Mais donc, du coup, il y a un vrai sujet sur à ce propos. Et juste, parce que j'arrête pas de citer l'équipe, je veux bien dire que ce ne sont absolument pas les seuls et que le livre n'est absolument pas un livre contre l'équipe. J'ai plein de confrères et de consoeurs que j'apprécie particulièrement à l'équipe, et c'est bien parce que si on en parle autant, c'est bien parce que c'est l'unique unique quotidien national sportif et qu'on aurait tellement intérêt à ce qu'il y en ait d'autres pour que le récit soit plus varié. Et vraiment, par exemple, sur l'affaire d'Hakimi, moi j'ai vu une interview d'Hakimi sur Canal+, où on lui a parlé des accusations de viol entre le fait qu'il déteste l'injustice et du coup qu'il détestait l'injustice dans l'arbitrage et son amour pour sa maman. Et c'est entre ces deux sujets-là qu'il a pu parler des accusations de viol, ce qui, moi, me semblait terrible à ce moment-là.
Avant de redonner la parole à Marc Leplanc, qui représente l'équipe, après, rien n'empêche aussi la presse généraliste de s'intéresser à ces sujets-là, hein, parce qu'on parle effectivement de l'équipe, mais comme on est sur largement de l'extra-sportif...
Par exemple, la FEV sur l'affaire Hakimi, leur papier était...
Voilà, donc on pourrait aussi compter sur la presse généraliste pour traiter de ces affaires-là. Ça pourrait aussi faire partie de leur devoir d'informer. Marc Leplongeon.
Oui, bah moi déjà je voudrais rappeler, parce qu'on parle beaucoup de l'équipe, et c'est bien naturel, parce qu'on est quasiment en situation de monopole hein, dans le paysage sportif français. Et je voudrais rappeler quand même qu'on ne doit pas oublier qu'on traite énormément d'affaires de VSS dans le sport à tous les niveaux, et que c'est un travail qui occupe plusieurs journalistes dans cette rédaction, qu'on en discute énormément et qu'on donne une très très large visibilité à ce sujet, et de plus en plus, et que c'est un combat quotidien. Je voudrais juste rappeler ça au passage. Mmh. Je voudrais revenir un très bref instant sur l'affaire Jimmy Gressier.
Juste un document, Marc Leplongeon, parce que avant de revenir sur cette affaire-là, puisque vous êtes sur justement le rôle de l'équipe, vous pouvez peut-être aussi parler des formations qui existent, j'imagine, à l'intérieur de votre journal, pour essayer de sensibiliser les journalistes, pour essayer de déconstruire cette culture dont on parlait tout à l'heure. J'imagine que tout ça, je crois aussi qu'il y a des journalistes, femmes, qui se sont organisées au sein du journal pour essayer de mieux mettre en lumière ces affaires-là.
Oui, absolument. Il y a un collectif, alors pas que de femmes, avec des hommes également, qui s'est monté il y a quelques années, qui est un collectif de lutte, comité éditorial de lutte contre les stéréotypes de genre.
On me dit qu'il y a peu de femmes ici, mais Daline Miri me dit qu'il y a peu d'hommes dans ce collectif.
Ouais, si mes informations sont bonnes, je crois qu'ils sont trois et qu'il y a une bonne douzaine de femmes. Si
je dis pas j'en connais au moins qui est dans mon service, c'est pour ça que je me permets de le préciser. Cela dit, oui, c'est un collectif majoritairement féminin, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que c'est un combat qui est partagé par beaucoup de personnes et de journalistes hommes dans cette rédaction. Et c'est un collectif qui chasse effectivement un certain nombre de clichés sexistes, qui met sur la table un certain nombre de débats qui touchent à la visibilité des femmes dans le sport. Et c'est un débat qui est très très sain. Je rappelle que le journal L'Équipe est un journal qui est très 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 majoritairement lu par des hommes, qui est très majoritairement écrit par des hommes, que tout cela change, qu'on essaie de faire changer cela, et que c'est comme dans toute la société, on a des hommes blancs de 60 ans qui doivent coexister avec des jeunes qui sont beaucoup plus formés et beaucoup mieux sensibilisés à ces questions-là, et que moi j'estime qu'il faut, pouvoir mettre tout le monde autour d'une table sans jeter d'anathème et discuter des pratiques des uns et des autres avec des journalistes qui sont plus militants que d'autres et d'autres qui sont d'une tradition beaucoup plus froide et beaucoup plus factuelle dans leur manière de faire le récit médiatique.
Je ne sais pas, Marc Leplanc, si c'est une question de militantisme en l'occurrence, c'est plutôt une question de prise de conscience sur une réalité qui a effectivement un temps été oubliée. Mais puisque vous abordez justement la question de la sous-représentation des femmes dans le milieu sportif, ce qui est le cas à l'équipe comme dans beaucoup d'autres médias concernant le sport, on peut revenir un instant sur l'acte et la décision d'une journaliste sportive, Vanessa Lemoine, qui a décidé de mettre fin à sa carrière suite à une grande vague de cyberharcèlement. On écoute justement Léa Salamé en parler avec Ophélie Meunier sur le plateau de Quelle Époque.
Quand j'ai commencé, si on m'avait dit que j'allais présenter un jour la Coupe du Monde de football, vraiment, je voudrais juste revenir à là, quoi.
Vous êtes fan de foot, c'est vrai, mais vous me dites tout de suite, je ne suis pas journaliste sportive. Donc, je vous dis ça pour vous prémunir de gens qui vont forcément sur les réseaux sociaux vous critiquer en disant parce que je vous dis ça aussi parce qu'il y a une jeune journaliste de beIN Sport qui s'appelle Vanessa Lemoine qui est excellente. Alors, pour le coup, c'est une journaliste sportive et qui a décidé cette semaine de lâcher le sport parce qu'elle s'en est pris tellement dans le visage après la CAN
vraiment, en plus.
Qu'elle a dit moi j'ai pas payé pour me faire taper sur la gueule.
Voilà, Sandy Montagnola, peut-être une réaction par rapport à ce parcours hein, de Vanessa Lemoigne, effectivement, qui est une des rares, finalement, journalistes femmes sportives à faire de l'antenne, à être très visible, qui a décidé, elle, de claquer la porte. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a parfois tellement de concurrence que les femmes dans le sport hésitent, finalement, à tout abandonner. Là, il semblerait que ça a été trop fort, trop dur, et qu'elle a décidé de mettre fin à sa carrière dans le domaine sportif.
C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés pour les femmes et de sorties aussi de carrière, alors qu'elles sont déjà moins nombreuses. Ce qui est important, c'est que, on va dire, du côté des médias, on avait un secteur qui était masculin, qui s'est féminisé assez largement. Et en sport, ça ne s'est pas fait. En fait, on n'a pas suivi le processus de féminisation. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre une chose qui est... On a l'impression que ça va en fait arriver comme ça dans le temps. En fait, petit à petit, on va féminiser. En fait, c'est pas ce qui est en train de se passer et les recherches, l'analyse,
l'objectif,
vraiment comme des résistances très fortes au sein de ces rédactions de pouvoir féminiser. Parce que en fait, elles ont suivi le même, on va dire les mêmes évolutions que les autres rubriques. Mais par contre, si cette féminisation se fait pas, c'est qu'il y a encore des éléments qui sont des stéréotypes très forts et finalement une hiérarchie entre les hommes et les femmes. Quand on laisse rentrer les femmes dans certains secteurs, et c'est le cas pour le journalisme, en fait, on va leur donner les places pour lesquelles on a le moins d'intérêt ou d'attrait, donc les éléments qui nous empêchent finalement de faire carrière, donc c'est beaucoup plus dur pour elles de pouvoir faire carrière puisqu'elles ne sont pas au poste qui leur permettrait de le faire. Elles subissent beaucoup plus facilement du cyberharcèlement, et donc c'était aussi le cas pour Vanessa Lemoigne, qui peut amener ici des personnes à se dire au bout d'un moment, en fait, ça va devenir trop lourd. On sait aussi que les femmes en sport sont parmi les plus précaires. Donc ça veut dire que là aussi, en fait, ça pousse à des sorties de carrière. Elles ont des carrières qui sont plus discontinues, donc plus souvent pigistes. Et donc ça impacte aussi leur accès, par exemple, à des postes à responsabilité. Ça impacte... Donc on voit que c'est quelque chose qui est très large. Et je le rappelle, sur l'enquête qu'on a menée avec l'association Femmes Journalistes de Sport, on est à 15%. Donc c'est inégalement réparti dans les rédactions.
Alors expliquez-nous, 15% des rédactions femmes, de médias sportifs.
En fait, 15% de femmes au sein des rédactions sportives. D'accord. En France. Et c'est un chiffre qui a assez peu évolué, mais surtout ce qui est important de rappeler, je pense, c'est que c'est pas une situation qui est nouvelle. On en parle, donc nous on a des corpus un peu anciens, déjà dans les années 80, on a des déclarations de l'UJSF, donc qui est l'Union des journalistes de sport, où on avait déjà eu un appel aux rédactions pour dire en fait, on est le secteur ou la spécialité, on va dire, journalistique la plus masculine. Et donc, on fait un appel, c'était pendant un colloque à Clermont-Ferrand, on fait un appel aux rédactions pour qu'elles féminisent leur... Donc, ça veut dire que c'est pas une situation qui est nouvelle. Et ça veut dire qu'en fait, ça reste comme ça. Ça veut dire que c'est organisationnel et c'est institutionnel en fait.
Non mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas compter finalement sur cette idée que ça va se faire tout seul progressivement en suivant une certaine ligne forcément ascendante. D'ailleurs on le voit d'ailleurs dans beaucoup de secteurs, il y a même des retours de bâton, on pourrait même parler parfois de régression, et finalement aujourd'hui l'abandon de Vanessa Lemoigne de quitter l'antenne est une forme de régression. C'était une manière de dire c'est tellement dur que je décide de quitter, et rien ne dit qu'elle sera remplacée finalement par une autre femme. Ce sera peut-être une incarnation féminine en moins. Mejdaline Miri, on se rend compte que finalement tout ça fait système, hein. C'est-à-dire qu'on a parlé de ce monde d'hommes par les hommes pour les hommes, que ce soit dans un monde sportif, dans ces médias aussi, dans les femmes journalistes qui ont des difficultés à exercer leur métier, j'imagine que vous l'avez vécu vous aussi en tant que journaliste sportive. Donc on a bien l'élaboration ici d'un système.
Oui, c'est ça, d'un système où parfois on se sent bien seul. Marc Le Plongeon le disait, que c'était donc principalement des femmes à l'équipe qui se battaient pour faire en sorte de faire évoluer justement les pratiques les mots utilisés dans les rédactions. En fait, moi, j'ai la sensation que, et effectivement, dans toutes les rédactions que je connais, dont j'entends parler, puisque comme je suis coprésidente de l'association Femmes Journalistes de Sport avec Siani Dalma à l'équipe, j'entends énormément de consoeurs venir très, très, très souvent nous raconter comment ça se passe dans leur rédaction et pour nous dire que ça se passe mal. Et donc, en fait, on se retrouve au poste, souvent dans des conditions les plus précaires, souvent pas au poste à responsabilité, mais, et c'est Marc Le Plongeon le disait lui-même, souvent les plus sensibles, aguerris, formés sur les sujets liés au genre. Et donc, il y a une contradiction totale entre, en même temps, comprendre ces enjeux-là, s'en saisir, et en même temps ne pas être au poste qui permette de véritablement travailler le sujet avec une parole qui est régulièrement invalidée, disqualifiée, etc. Donc ça, j'avoue que ça, j'avoue que c'est assez douloureux. Et puis,
Dans votre livre, d'ailleurs, on lit aussi que les femmes, pour parvenir peut-être à exister, alors en faisant avec la place qu'on leur offre, qu'on leur donne, sont parfois obligées de verser un peu dans une sorte d'influenceuse, de traiter le sport différemment.
Bah, en tout cas, on voit qu'on est plus nombreuses en télévision qu'en radio. Parce que ça fait déjà quelques années que c'est totalement...
La télégénie, quoi, la télégénie.
Exactement, c'est admis de mettre des femmes pour parler de sport, mais elles ont souvent le même profil, on ne peut pas s'empêcher de le remarquer, c'est-à-dire qu'elles ont souvent moins de 45 ans, elles font souvent moins d'un 42 ou d'un 40, elles sont souvent blanches, elles sont souvent blondes, enfin même souvent, je dis, elles sont automatiquement blanches. C'est vraiment, il faut rentrer dans un stéréotype, alors elles sont ultra compétentes. Hein. Évidemment, mes consoeurs avec qui je suis extrêmement solidaire, souvent, il faut remplir tout un tas de cases pour pouvoir enfin accéder à ça. Et encore, on n'a pas souvent une parole d'experte. C'est l'ARCOM qui a compté le temps de parole pendant les Jeux Olympiques. On est à peu près au même temps que tout au long de l'année, c'est-à-dire à 19%, alors qu'il s'était vanté sur France Télévisions que l'équipe était totalement à parité. Et au moment des prime time, donc entre 20h et 23h, pendant les Jeux de Paris, le temps de parole des femmes est redescendu à 4%. Et il compte les consultantes, donc les anciennes athlètes de haut niveau qui sont là parce que leur médaille, leur parcours les valide. Donc il n'y a peut-être aucune femme qui, sur les primes, a parlé pendant les Jeux Olympiques. Il faut vraiment entendre ça. On a vraiment beaucoup de mal à se faire de la place dans le métier. Tout n'est pas noir. Hein. Moi, je considère que je fais le plus beau métier du monde et il y a beaucoup de choses qui m'éclatent. Mais j'aimerais tellement qu'on puisse avancer, qu'on soit plus nombreuses. La mixité, c'est ce qui permet à une entreprise de fonctionner. C'est vers ça qu'il faut qu'on aille.
C'est sûr que la mixité est encore loin d'être aujourd'hui un objectif à portée de main, même si, puisqu'on parlait encore de football, on peut penser à leur boulot, voilà, qui est sur Canal+, qui représente en plus avec la compétence d'une ancienne sportive. Marc Le Plongeon, puisqu'on parle de système, tout cela passe aussi par la sous-représentation aussi du sport féminin dans les médias, et a fortiori dans le vôtre, puisque vous l'avez dit, vous êtes quasiment le seul média, le seul quotidien sportif aujourd'hui français, d'ailleurs j'en profite pour dire que vous fêtez vos 80 ans, mais il n'en reste pas moins qu'il y a cette sous-représentation aussi du sport féminin.
Ah oui, et bah c'est une certitude, hein. On ne va pas se mentir, quand on tourne les pages, c'est quand même beaucoup, il est quand même beaucoup question de sport masculin. Maintenant, c'est des débats qui ont lieu tous les jours en conférence de rédaction à l'équipe, où on essaie d'injecter dans nos pages le plus possible de compétitions internationales féminines dans toutes les disciplines. Alors il y a des disciplines qui ont plus de visibilité que d'autres, mais c'est en tout cas le cas, les choses changent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des débats qui ont lieu absolument tous les jours chez nous sur ce point-là. Et après, il y a des contingences de qui se posent. Est-ce que on a la même audience quand on traite le sport féminin? Est-ce que donc on doit lui attribuer la même place ou non que le sport masculin? Et tout ça, oui, c'est des conditions, c'est des critères qui rentrent en compte dans le traitement dans le traitement médiatique, et donc il faut qu'on arrive à mettre tout ça dans la marmite et donner le plus possible de place aux femmes dans nos pages.
Même si, évidemment, je pense que ça fait partie de l'objet de votre discussion. On sait très bien que parfois, ça peut être l'offre qui crée la demande et que si on couvre un peu davantage... Je pense que notamment le mondial du football féminin était un cas d'école. C'est-à-dire que si on le traite, si on en rend compte, il y avait eu des tentatives hein, justement par rapport à ce mondial-là. Donc ça fait partie de ces différentes considérations qu'on doit prendre en compte. Juste peut-être Sandy Montagnola, puisque on comprend que selon vos analyses sur le long cours, les choses n'avancent pas d'elles-mêmes. Néanmoins, quels seraient peut-être aujourd'hui les leviers sur lesquels il faudrait davantage insister ou actionner pour arriver à avoir une meilleure visibilité de ces affaires violences sexuelles dans le monde du sport?
Bah en fait, je pense qu'on a plein d'éléments, notamment les éléments de recherche, qui montrent exactement les problématiques, la façon dont s'articulent des violences qui sont à la fois interpersonnelles, institutionnelles et structurelles, comme on a pu le montrer là. Et donc, en fait, en s'appuyant sur ces constats, il est assez facile de pouvoir, en fait, finalement proposer une médiatisation qui serait une médiatisation, correcte. Et donc, si on reprend la question sur la place des femmes dans les rédactions, de la même façon, il y a des éléments assez évidents qui ressortent des recherches, notamment d'avoir des procédures de recrutement qui soient plus transparentes, le fait d'identifier vraiment les résidents résistance parce que on sait qu'il n'y a pas que les éléments de stéréotypes, mais en fait, il y a ces résistances qui sont très fortes. Et tant qu'on ne prendra pas en compte ces rapports de pouvoir, tant qu'on ne laissera pas aux femmes des places qui sont aussi des places de responsabilité et des places pour faire carrière, bien en fait, on n'y arrivera pas. Donc il y a ces deux éléments-là, en tout cas issus des recherches, qui permettent de donner des constats évidents.
Et puis pour justement mieux comprendre, analyser ces constats évidents, je vous renvoie à la lecture de cet ouvrage « La zone d'impunité » signé Mejdaline Miri, qui était notre invitée, ainsi que Claudie Lecos, qui est là sa co-autrice, critique du traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles dans le sport. C'est chez Hugo Doc. Merci à Marc Leplongeon d'avoir accepté cette invitation. On peut continuer à vous lire, Marc, évidemment, dans le quotidien sportif français qui s'appelle L'Équipe, où vous signez la partie enquête. Merci beaucoup également à Sandy Montagnola pour vos éclairages sur le long cours. À la réalisation de cette émission, c'était Sorge Leroy. À la préparation, comme chaque semaine, Joséphine Reinhardt. Et à la vidéo, Sofiane Agdib. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle Fabrique de l'Info.